Bonjour David Rigolet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes chercheur ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Alors, l'armée israélienne a annoncé avoir intercepté au-dessus de la Syrie un drone lancé depuis l'Irak en direction d'Israël. L'attaque a été revendiquée par la résistance islamique en Irak. C'est donc, j'imagine, l'œuvre de l'Iran.
Oui, enfin, en tout cas, des groupes, des mandataires pro-iraniens, effectivement, notamment ceux qui sont basés en Irak et qui ont utilisé l'espace aérien syrien. Puisque la Syrie, effectivement, est jouxte Israël et le Liban, donc est une voie de passage à bien des égards.
Alors justement, ça nous donne l'occasion d'évoquer cet acteur, la Syrie, qui est un acteur relativement silencieux depuis le début du conflit. Est-ce que cela signifie qu'on doit s'attendre à une implication de la Syrie dans le conflit au Moyen-Orient dans les prochains mois?
C'est peu vraisemblable. La Syrie, effectivement, fait montre, enfin, en tout cas, le régime syrien de Bachar al-Assad fait montre d'une extrême prudence. D'ailleurs, des informations qui viennent d'être relayées par la radio israélienne Kan 11 évoquent le fait que Bachar al-Assad aurait pris soin de transmettre des messages à Téhéran en indiquant qu'il souhaitait pas être entraîné dans une guerre directe contre Israël et que même toute activité qui est offensive, qui serait développée depuis son territoire, risquerait de mettre en danger son régime. En réalité, il fait implicitement référence à des avertissements explicites d'Israël, lui conseillant de s'abstenir de toute participation trop active à l'axe dit de la Moukawama, c'est-à-dire de la dite résistance à Israël, justement pour éviter, faute de quoi, son régime serait menacé effectivement de renversement.
Donc, ce serait un indicateur de la faiblesse du régime de Bachar al-Assad?
Bah, il faut rappeler quand même que le régime de Bachar al-Assad a survécu à une guerre civile de 10 ans, mais qu'il est exsangue. Il est exsangue économiquement et même militairement, il est très affaibli. Donc en fait, c'est un régime qui est en réalité débiteur de ceux qui l'ont sauvé, en l'occurrence la Russie et l'Iran. L'Iran qui a choisi la Syrie comme on va dire comme hinterland pour justement pour pouvoir faire transiter des armes à destination tout spécialement du Hezbollah. Et c'est le problème, c'est-à-dire qu'il est un peu piégé par son statut de débiteur vis-à-vis de Téhéran. Et ça explique son extrême prudence, justement parce qu'il ne veut pas être entraîné et en même temps il ne peut pas ne pas servir un minimum de hub justement pour ses transferts.
Oui, c'est ce que j'allais dire. On a également des informations selon lesquelles il continuerait tout de même à être impliqué dans le transfert des armes, par exemple. Est-ce qu'il cherche à se distancer de l'influence iranienne aujourd'hui?
Il aimerait bien, mais il n'en a pas la possibilité. C'est pour ça que j'évoquais son statut de débiteur. Et donc il s'expose presque malgré lui à des répliques justement israéliennes qui sont de plus en plus consistantes. D'ailleurs, Tomer Bar, qui est le chef des forces aériennes israéliennes, a dit qu'aujourd'hui la priorité c'était couper l'approvisionnement en armes du Hezbollah. Ça passe par évidemment des frappes en Syrie. Et d'ailleurs, le porte-parole de Tzal, Daniel Hagari, disait en février, début février 2024, reconnaissait que Tzal avait attaqué des infrastructures du Hezbollah en Syrie à partir du 7 octobre de manière récurrente, au sol et par voie aérienne. Il parlait d'une cinquantaine de cibles. C'était en février 2024. Aujourd'hui, on est bien au-delà. Et on peut signaler d'ailleurs qu'il y a une opération qui est passée un peu sous les radars hein, médiatiques, mais qui est extrêmement importante. Elle a eu lieu le 8 septembre dernier. C'est un raid de Tzal sur MASIAF, qui est un centre d'études et de recherches scientifiques, avec des complexes, une infrastructure souterraine qui a fait 19 morts et 37 blessés. Et il se trouve qu'il était lié justement à un site de production utilisé par l'Iran, production de roquettes, de missiles et d'armes de précision. Et il se trouve que pour la première fois, il s'agissait plus seulement d'un bombardement aérien, comme ça a pu être le cas ces dernières années, mais d'une opération au sol qui a impliqué l'unité Chaldag pour détruire justement l'infrastructure souterraine. Parce que Israël considère que c'est absolument vital pour couper justement toute possibilité de on va dire ce corridor de livraison d'armes à destination du Hezbollah.
Est-ce que ça pourrait être une manœuvre de la part de Bachar al-Assad tactique de est-ce que ça pourrait indiquer par exemple une fragilisation de l'axe iranien? Cette prudence.
Oui, il est de facto fragilisé de toute façon, parce que cet axe dit de la Moukawama, hein, qui regroupe l'ensemble des mandataires, pro-iranien, ce qu'on appelle les proxys régionaux, il est en voie d'explosion aujourd'hui. C'est la stratégie iranienne. D'abord, il y a eu la guerre à Gaza. Le Hamas faisait partie, était une spécificité puisqu'il est d'obédience sunnite, mais aujourd'hui, c'est le Hezbollah qui est, c'est-à-dire le joyau de la couronne pour Téhéran. Donc de ces axes, de cet axe. Mais les Houthis au Yémen sont également frappés. Donc l'idée de la stratégie israélienne, c'est effectivement de démanteler la structure de cet axe pour affaiblir l'Iran, en sachant qu'évidemment, le front essentiel, c'est l'Iran, bien sûr, en dernier ressort. Mais ça passe d'abord par un affaiblissement, une dévaluation stratégique de cet axe.
Alors aujourd'hui, Tsahal a déclaré vouloir viser stratégiquement les institutions financières du Hezbollah afin justement de révéler l'implication de l'Iran dans le financement de ces proxys. En fait, est-ce que, à votre avis, c'est une bonne stratégie ?
Bah, c'est une stratégie complémentaire qui est développée par Tsahal. Il y a les opérations militaires, la guerre aérienne, la guerre au sol, puisque aujourd'hui Tsahal est engagé au sud Liban. De manière soutenue. Et puis, effectivement, la question de l'argent. Comme, selon l'adage, l'argent est quand même le nerf de la guerre. Donc, mais ce n'est pas uniquement l'argent iranien, d'ailleurs, parce qu'en réalité, avec les sanctions à l'endroit de l'Iran, qui avaient été rétablies de manière très significative par Donald Trump à partir de 2018, l'Iran a une marge de manœuvre qui s'est réduite quand même. Et ça s'est senti assez rapidement, justement, pour le financement de ces mandataires qui ont dû trouver aussi par eux-mêmes des moyens de substitution pour pallier une baisse justement de ces financements, même s'ils restent importants, en centaines de millions de dollars. Et notamment, ça passe effectivement par un certain nombre d'institutions qui permettent de blanchir de l'argent, notamment de l'argent de la drogue, le captagon. Et là, on retrouve la Syrie, la Syrie est un gros producteur de captagon, qui est une amphétamine qui permet de générer des milliards de dollars pour le régime syrien, et puis qui est effectivement qui sert aussi à abonder des ressources pour le Hezbollah à travers des structures qui sont des structures qui sont mises en place comme effectivement Al-Qaïda Al-Hassan. C'est un organisme de microfinance en fait qui a été fondé en 1983, qui sert de collecte de dépôts. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes et d'entités, et ça permet effectivement d'articuler un réseau bancaire, même si c'est pas une banque au sens strict du terme, puisqu'il n'y a pas de, c'est un organisme de microfinance, de microcrédit officiellement, mais qui permet effectivement des flux financiers de manière opaque d'ailleurs, avec des interrogations sur les liens avec les banques libanaises d'ailleurs, notamment la banque centrale libanaise qui a longtemps été dirigée par Riyad Salameh, qui fait l'objet de poursuites judiciaires aujourd'hui.
Alors j'ai une dernière question, David Rigoulet-Rose, pour revenir sur la géopolitique de la région et le rôle de la Syrie dans cette région. Doit-on également voir l'influence de la Russie et des Émirats arabes unis derrière l'apparente prudence de Bachar al-Assad ?
Alors oui, paradoxalement, notamment par rapport à l'Iran. Je dis paradoxalement parce qu'en théorie, Moscou est l'allié de l'Iran. Il a été l'allié de l'Iran. Dans le soutien du régime de Bachar al-Assad pour sauver son régime. Mais en même temps, les intérêts russes ne sont pas forcément totalement convergents avec ceux de Téhéran. Moscou ne souhaite pas une déstabilisation et un affaiblissement du régime de Bachar al-Assad. Il veut pouvoir conserver ses bases, notamment son port, et puis la base de Meymen, la base aérienne et son port sur la Méditerranée. Et donc il souhaite pas effectivement que le régime soit embarqué dans une guerre, dans un des fronts justement avec Israël. Et puis pour ce qui est des Émirats, les Émirats ont une stratégie de découplage, de tentative d'éloignement, de distanciation du régime de Bachar al-Assad de Téhéran en insistant en lui rappelant son arabité pour pouvoir justement le ramener dans le giron arabe, ce qu'il a favorisé au sein de la Ligue arabe justement, qui est une manière d'essayer de dissocier autant que faire se peut justement de sa relation intime avec le régime de Téhéran dont il est débiteur par ailleurs.
Eh bien, David Rigoulet-Rose, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci.